Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène ce soir au Chili, où le cannabis médical est bien autorisé, mais comme il est effroyablement cher, des parents se sont constitués en association et font pousser leurs produits tout seuls. Nous sommes aussi au Brésil, prendre des nouvelles de Lula, 18h50, le vrai du faux de l'Europe. Et Delphine Simon y comparera nos productions d'électricité et de charbon. 18h55, l'édito de Corinne Laine du journal Le Monde à San Francisco. On boucle la boucle Trump ensemble, la Californie avait promis de résister. Où en est-elle? Elle nous le dira. Mais avant, voici que l'Arabie Saoudite demande à ses ressortissants de quitter le Liban d'urgence après avoir démissionné elle-même le Premier ministre libanais. Est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle guerre dans ce pays? Qui tire les ficelles? On a vraiment besoin de comprendre. Le monde est vaste et parfois il faut s'accrocher pour pas tomber.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Ikhwani wa ahibai abna al-sha'ab al-libnani al-azim. Atawajjah ilaykum bihadha al-khitab.
Voilà, ça, ce que vous attendez, ça se passe le 4 novembre dernier, donc c'est samedi dernier, l'annonce de la démission de Saad Hariri, Premier ministre libanais. Cette annonce met toute la région sur le fil du rasoir et mérite un peu d'explication à plat. On parle de stratégie saoudienne, on parle d'États-Unis, on parle d'Israël, on parle d'une obsession commune pour le coup qu'est l'Iran. Et tout juste tombé aussi l'Arabie Saoudite qui demande à ses ressortissants de quitter le Liban. Bonsoir Denis Bochard.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français de relations internationales, l'IFRI. Avant qu'on se parle, je voudrais vous emmener justement à Beyrouth, prendre un peu l'ambiance, écouter les gens, parce que depuis samedi, on est dans un flou plus que complet dans ce pays, dans une certaine forme d'inquiétude aussi, vous allez l'entendre, avec le reportage de Laure Stéphane qui est à Beyrouth pour Un jour dans le monde.
Depuis la démission de Saad Hariri, il y a près d'une semaine, le Liban est en état de sidération. Antoinette fait partie des inquiets, ils sont nombreux.
La situation est très inquiétante, on est tous stressés, on ne sait pas ce qui nous attend, tout est noir devant nous. On sent que la situation est très grave. J'ai peur qu'il y ait une guerre contre le Liban et qu'on paye le prix pour des problèmes qui ne nous concernent pas.
Les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ont déjà donné lieu au Liban à des épisodes violents dans un passé récent. Mais ce que l'on craint aujourd'hui à Beyrouth, c'est d'être emporté dans une guerre régionale. Rami est résigné.
On n'a peur de rien parce que dans ce pays, il n'y a jamais de répit. On a à peine fini avec une histoire qu'une autre commence. Le problème, c'est que tous les peuples occidentaux marchent selon les desiderata des Américains. D'après moi, on risque plus une fitna, des divisions internes, qu'une guerre.
Dans la capitale libanaise, on vit collé aux nouvelles pour essayer de comprendre. D'après Samir, un commerçant, tout le pays est à l'arrêt.
On ne sait pas ce qui nous attend, il y aura peut-être des incidents. On attend de voir comment évolue la situation, le pays est à l'arrêt. Et de toute façon, on n'a plus de Premier ministre, on n'a plus personne pour prendre une décision, pour la signer. Le pays est à l'arrêt, c'est tout.
Le président Michel Aoun a lancé des appels à l'apaisement, mais le flou reste total. Et le Liban a beau être habitué aux crises, on juge la situation inédite. Tony Onaissi, ingénieur.
Est-ce que le Liban a été dans le flou, Oui, on a été sans président pendant 2 ans. Mais il y avait cet accord tacite quand même entre chiites et sunnites qui voulait que la situation reste calme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que deux puissances régionales pensent faire la bataille ici. Dans tous les cas, l'Arabie est en train d'essayer de faire ça.
Cet après-midi, les Saoudiens faisant monter la tension ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban.
Denis Bochard, Laure Stéphane, dans son reportage, utilise le mot de sidération quand elle parle de la réaction libanaise. Est-ce que c'est un mot que vous comprenez? C'est vraiment ce qui se passe là-bas?
Oui, je pense que la démission de Saad Hariri était une surprise. C'était une surprise et dont d'ailleurs les raisons ne sont pas encore totalement éclaircies. Parce qu'effectivement, comme un Libanais s'exprimait à l'instant, il y avait eu un retour à une certaine stabilité, un certain calme, une sorte d'accord implicite entre finalement sunnites, chiites et chrétiens.
Michel Aoun, le président, Saad Hariri, le Premier ministre.
Des tâches. Michel Aoun, d'ailleurs, était allé à Riyad. Donc on avait l'impression que ce couple, Saad Hariri et Aoun, fonctionnait à peu près bien. Et puis il y a eu un voyage éclair de Saad Hariri tout début novembre, où il est revenu assez satisfait. Il a évoqué avec ses collaborateurs la perspective des élections qui se tiendront en mai. Il laisse entendre que le gouvernement laissait rester en place jusqu'en mai. Et puis le 4 novembre, il est allé à Riyad. Et de Riyad, non pas de sa résidence, mais d'un lieu non défini.
Parce qu'il faut rappeler que sa famille habite à Riyad qu'il a la double nationalité, comme son père l'avait.
Il a la double nationalité et il navigue, si j'ose dire, entre deux pays, Beyrouth, Riyad et Paris, d'ailleurs. Donc, il a annoncé brutalement cette démission, donnant l'impression d'ailleurs que cette démission lui a été dictée.
Ça ressemblait à un joli numéro de ventriloque quand même.
Absolument. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mohamed Ben Salman, parce que c'est lui le patron en fait, en Arabie Saoudite, pourquoi a-t-il obligé finalement Saad Hariri à démissionner? Il y a différentes raisons. Sans doute le sentiment que la situation au Liban se dégrade au profit du Hezbollah et que finalement l'ordre du Hezbollah règne de plus en plus, un peu partout, à tous les niveaux, et que finalement Saad Hariri n'a pas réussi à rétablir une certaine influence des sunnites et donc une certaine influence de l'Arabie Saoudite.
Donc il lui dit, vous êtes trop mou, en gros, vous êtes trop mou contre le Hezbollah, en creux, vous êtes trop mou contre l'Iran derrière, donc vous partez.
Alors, je pense que ceci s'inscrit naturellement dans un contexte beaucoup plus vaste. Et on a l'impression, comme vous savez, il y a une série d'événements, je dirais un peu spectaculaires, qui se sont déroulés à Riyad ces derniers jours et ces dernières semaines. Et on a l'impression effectivement d'un durcissement de la politique saoudienne à l'égard de l'Iran. Et que cette confrontation reprend de façon beaucoup plus brutale encore qu'auparavant.
Alors effectivement, les événements chocs dont vous parlez, notamment l'éviction, la purge totale, c'est vraiment comme ça qu'on l'a appelé, d'un certain nombre de personnes en Arabie Saoudite. Des biens, des centaines, on parle de centaines de millions hein, qui sont bloqués désormais. La concordance de calendrier, évidemment que ce n'est pas un hasard. Donc quel est le lien entre l'un et l'autre, entre cette purge en Arabie Saoudite et le fait de dire à Saad Hariri, maintenant tu démissionnes?
Je pense que MBS veut, je dirais, affirmer son pouvoir. Le prince Mohamed Ben Salman veut, je dirais, imposer son autorité et veut reprendre une initiative contre l'Iran pour différentes raisons, et notamment parce que la menace iranienne lui semble plus forte que jamais. Cette affaire de missile tiré du Yémen et qui a été intercepté alors que vraisemblablement il se dirigeait vers l'aéroport de Riyad, a été un signal qui montre qu'effectivement l'intervention de l'Iran au Yémen, je dirais, s'affirme. Et effectivement, les houthistes, cette tribu houthiste n'a pas les moyens pour faire un tir d'une telle sophistication. Il y a aussi le fait que la politique américaine se durcit. Avec effectivement la non-certification par le président Trump et
de l'accord iranien. Mais alors, est-ce que du coup le prince saoudien est en train de donner des gages aux États-Unis? Et finalement, le seul endroit où il peut le faire, j'allais presque dire sans dommage, c'est le Liban. Donc ça tombe sur le Liban. Est-ce qu'il y a aussi un message aux États-Unis à Donald Trump? On a le même ennemi, c'est l'Iran, regardez.
Oui, tout à fait. Je crois qu'effectivement, cette affirmation, cet intérêt mutuel avait déjà été affirmé de façon très nette au mois de mai dernier, lorsque le président Trump avait fait une visite d'ailleurs tout à fait remarquée, je dirais un peu triomphaliste, à Riyad, à l'occasion à la fois d'une rencontre bilatérale, mais d'une rencontre avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement musulmans, à l'exception de l'Iran. Et déjà, très clairement, le président Trump avait durci son discours, laissant entendre qu'il était partisan d'un changement de régime en Iran, très clairement.
Du coup, Denis Mouchard, ça se passe dans quel sens? Est-ce que ce sont les États-Unis qui disent à l'Arabie Saoudite « donnez-moi des gages » ou est-ce que c'est l'Arabie Saoudite qui dit aux États-Unis « regardez ce que je suis en train de faire » ?»
Oh, je pense que ce sont les deux. C'est-à-dire une convergence.
Les deux, mon capitaine.
Voilà, absolument. Une convergence d'intérêts et de préoccupations. L'Iran représente, pour l'Arabie Saoudite, à tort ou raison, une menace qualifiée d'existentielle.
Alors, je voudrais qu'on revienne quand même au Liban un instant. D'abord, cette menace de l'Arabie Saoudite, là, qui dit à ses ressortissants, il faut rentrer d'urgence. Est-ce que c'est une part de bluff? Est-ce qu'il y a vraiment un danger immédiat sur le Liban aujourd'hui?
Écoutez, en principe, non. On va voir d'ailleurs comment les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. Est-ce que Saad Hariri va revenir au Liban? C'est pas sûr. Il se dit menacé. Mais pour l'instant, le gouvernement est toujours en place. C'est-à-dire que le général Aoun n'a pas choisi de remplaçant possible.
Est-ce qu'il peut le faire d'ailleurs? Parce que lui aussi a dit on décidera quand il sera rentré. Le Liban demande à ce qu'il rentre. La question est de savoir s'il est retenu ou s'il n'est pas retenu. Est-ce qu'on sait ça, s'il pourrait reprendre un avion dans l'autre sens, ça doit arriver
ou pas? Assez, là aussi, ça fait partie du mystère. Il y a aussi le fait que Saad Hariri, donc, a la nationalité saoudienne, qu'il a des intérêts considérables en Arabie saoudite.
Financier,
il est le patron d'une entreprise saoudogée qui a 56 000 salariés, qui est au bord de la faillite. Mmh. Et en plus de ça, il avait des liens très étroits avec plusieurs membres de la famille royale qui ont été arrêtés, notamment le prince Abdulaziz Ben Fahd. Donc là aussi, est-ce qu'il n'est pas lui-même, je dirais, menacé dans le cadre de cette purge?
Rien ne nous dit qu'il n'a pas été arrêté lui-même, finalement.
Voilà.
Au final.
Enfin, pour l'instant, il semble libre de ses mouvements.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il rentre au Liban et qu'il reprenne sa place? Parce qu'après tout, la démission n'est signée que lorsqu'il est là, que lorsque Michel Aoun l'a accepté. Oui. Est-ce que ça fait partie des éventualités ou pas?
Vous savez, au Liban, tout peut arriver. Mais il est tout de même tout à fait insolite qu'un Premier ministre de quelque pays que ce soit annonce sa démission à partir de l'étranger.
Bah, c'est voilà. Ça. C'est tellement insolite de l'annoncer de l'étranger qu'on peut considérer qu'une fois rentrée, elle est l'une et l'autre venue.
Il y a un autre élément à prendre en considération. C'est que fait Israël ou qu'a l'intention de faire Israël? Car très régulièrement, il y a des rumeurs à Beyrouth laissant entendre que Israël va reprendre l'initiative contre le Hezbollah. Et à l'évidence, il y aura une intervention à un moment ou à un autre contre le Hezbollah. Israël n'a pas fini, de régler ses comptes avec le Hezbollah, qui représente effectivement pour lui une menace forte, avec à la frontière un arsenal de missiles qui s'est considérablement accru depuis la dernière intervention en 2006.
Cette guerre-là, cette nouvelle guerre entre Israël et Hezbollah, elle aura lieu, vous dites, on ne sait pas à quel moment. Les relations entre l'Arabie saoudite et Israël, justement, elles ressemblent à quoi, en fait?
Elles sont discrètement bonnes, avec manifestement une coopération dans différents domaines, en particulier le domaine du renseignement. Israël, comme l'Arabie saoudite, ont effectivement en intérêt commun, contrer l'influence iranienne à travers le Moyen-Orient, et sont tous les deux très très dubitatifs sur l'efficacité de l'accord nucléaire de juillet 2015 qu'ils ont tous les deux dénoncé. Donc il y a des intérêts communs. Ceci étant, une alliance ostensible entre l'Arabie saoudite et Israël contre l'Iran me paraît difficile à afficher.
Non, mais
difficile à afficher de façon concrète. Sauf effectivement une coopération discrète dans certains domaines, parce que l'opinion publique en Arabie saoudite, comme dans tous les pays arabes, et je dirais dans tous les pays musulmans, est tout de même foncièrement hostile à Israël et d'une façon générale aux États-Unis.
Je voudrais nous ramener aux relations entre le Liban et l'Arabie saoudite. Est-ce que le prince n'est pas en train quand même de se tirer une balle dans le pied quand on voit jusqu'à quel point il affaiblit Hariri finalement en le tenant plus ou moins prisonnier ou pas sans savoir réellement? Est-ce qu'il n'est pas en train d'affaiblir son propre camp finalement puisque c'était son homme à lui?
Tout à fait. Enfin, c'était pas son homme à lui, c'était l'homme des Saoudiens. Quand Rafik Hariri, le père, est devenu premier ministre au Liban, c'était à la suite d'un accord entre Bachar el-Assad et le roi Abdallah à l'époque.
Mais là aussi,
assassiné, Saad Hariri était effectivement resté l'homme des Saoudiens et MBS a suivi cette politique.
Mais alors, du coup, en affaiblissant Hariri, est-ce qu'il s'affaiblit pas lui-même?
Je pense que déjà, l'Arabie Saoudite est tout à fait sur la défensive au Liban. Le temps où Riyad convoquait les députés libanais, les enfermait dans une station balnéaire Taif et leur dictait une nouvelle constitution pour mettre fin à la guerre civile libanaise, ce temps est totalement révolu. Et effectivement, l'Arabie saoudite est maintenant très affaiblie au Liban et considère à tort ou à raison que maintenant l'ordre du Hezbollah règne et se répand notamment au niveau de l'armée libanaise, en particulier au niveau des services de renseignement libanais.
Mais est-ce qu'il y a des moyens de pression malgré tout qui restent à l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Liban ? Je pense par exemple à l'économie, les allers-retours entre les deux pays, vous l'avez souligné avec Hariri, sont très importants, mais il n'est pas le seul et c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, à mon avis, les points de pression restent tout de même faibles par rapport aux outils dont dispose l'Iran au Liban, avec effectivement un ambassadeur d'Iran qui est un véritable proconsul au Liban.
Denis Bochard, je ne vais pas vous demander de lire dans le marc de café, mais quand vous disiez qu'effectivement une guerre était probablement à venir, sûrement proche en tout cas, une nouvelle entre le Hezbollah et Israël, ça ressemble à quoi en termes, j'allais dire, de calendrier ? C'est terrible de dire les choses comme ça, mais...
Je pense que le problème est plus général. Est-ce que l'ensemble du Moyen-Orient, le Golfe, ne va pas se réembraser à nouveau ? On a tout de même beaucoup de bruits de bottes qui se répandent un petit peu partout. En Iran, des tensions sont très fortes entre les gardiens de la révolution et le président Rouhani. Et il n'est pas exclu que l'Iran décide de reprendre son programme nucléaire et dénonce l'accord de juillet 2015. Donc là, on est reparti, si j'ose dire, pour un tour.
Vous nous laissez sur de belles perspectives. Et ce sera le mot de la fin. C'est un peu dommage quand même, Denis Bochard, conseiller Moyen-Orient pour l'IFRI. Merci mille fois de votre séjour un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde est au Chili, où les mères de famille font pousser du cannabis toutes seules pour soigner leurs enfants. L'actu en série et le résumé des épisodes précédents avec des nouvelles de Lula, Olivier Poujade.
Oui, sa voix rock résonne de nouveau dans les rues brésiliennes. Lula is back.
Eh bien, on verra ça dans un instant. Le vrai du faux de l'Europe et Delphine Simon un peu après. Delphine, l'annonce de Nicolas Hulot sur le nucléaire chez nous fait faire des calculs à l'Europe.
Oui, alors qui fait du charbon, qui fait du nucléaire chez nos voisins ? On vérifie tout ça.
Allez, ce sera dans un instant. C'est dans le vieux pot, comme on dit. Voici Neil Young, Powerfinger.
Look out, mama, there's a white boat coming up the river. With a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail. And it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. Gone and my brother's out hunting in the mountain. Big John's been drinking since the river took Amilou. So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do. The closer they got, the more those feelings grew. Daddy's rifle in my hand felt reassuring. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her.
Neil Young, Powderfinger sur France Inter. Power Hit Radio.
Magic FM. Terra de la Tulo.
Desservi pour info.
60 minutes.
Florence Paracuolo, c'est bien là, sous les radars, l'information internationale qui n'échappe pas à votre sagacité, Florence. Direction Kourou, en Guyane d'abord, pour le lancement, c'était hier, du premier satellite espion marocain.
5, 4, 3, 2,
À l'image P80. Décollage.
And they are off the Mohammed.
Eh oui, le satellite Mohammed 6A est bien parti, lancé par la fusée européenne Vega dans la nuit de mardi à mercredi. Un satellite dont la fabrication et le lancement ont été tenus secrets le plus longtemps possible. L'engin a été développé par le français Thales et conçu par Airbus Defence and Space. La commande remonte à 2013, négociée dans une discrétion totale avec François Hollande, parce que ce satellite fait passer le Maroc dans la cour des grands. Mohammed 6A, c'est ce qui se fait de mieux en matière d'observation. Officiellement, on parle d'un usage civil pour faire de la planification urbaine, pour surveiller l'agriculture ou gérer les ressources en eau. Mais comment s'en tenir là avec un outil capable de fournir des centaines de photos par jour d'une résolution de 70 cm, la taille d'un buisson? Les experts sont certains qu'il va servir à surveiller le territoire et les frontières, surveiller les mouvements du Front Polisario au Sahara occidental, surveiller son voisin algérien, surveiller les enclaves espagnoles de Ceuta, Melilla et la Méditerranée. Inquiétude des Algériens et surtout des Espagnols en contentieux territorial avec le Maroc et dont la puissance satellitaire est quasi inexistante, dépendante du programme Helios piloté par la France, et c'est un programme en fin de vie. En plus, tout le monde le sait désormais, Mohammed 6A attend un petit frère, Mohammed 6B, l'an prochain, qui va finir de doter le Maroc d'une réelle capacité d'observation militaire.
Mohammed 6A et 6B, c'est tellement romantique. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant, Florence?
Je vous emmène au Japon pour les vacances, Fabien.
Allez,
Chiche. Comme le Japon, c'est un beau voyage, on va se laisser le temps de planifier notre séjour. Donc, je vous propose de viser
2019. Donc, on
2019.
Y va toutes les deux, donc,
visiblement. Voilà, d'accord. On y va ensemble. 2019, Fabienne. Oui. Bon, 3 semaines chez les Nippons, c'est l'été.
2019.
Mais c'est déjà l'heure de rentrer. Eh oui, Fabienne, on est à l'aéroport international de Narita et nous avons dû nous acquitter de la taxe Sayonara. Qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous?
Oui, je vous demande.
Parce
qu'est-ce que c'est?
C'est une vieille idée du gouvernement japonais pour renflouer les caisses de l'État, une idée qui va être mise en pratique. Une taxe de 1000 yens, soit 7,50 € pour quiconque quitte le territoire. Ça va rapporter 300 millions d'euros au bas mot à partir de 2019, dans un pays où l'endettement équivaut à 250% du PIB. Les Japonais ne s'en sont jamais trop préoccupés parce qu'ils sont leurs propres créanciers. Mais malgré tout, la quatrième économie mondiale n'est pas sereine. Sans doute se demande-t-elle jusqu'où va grimper cette dette alors que le pays vieillit à vitesse grand V et qu'il dépense donc beaucoup d'argent pour la santé. Il a du mal en plus à relancer vraiment son économie. Alors quand on n'a pas de finances équilibrées, il faut avoir des idées. Et une taxe de sortie, ça c'est une riche idée. Alors qu'auront lieu en 2020, à l'année suivante, donc les Jeux Olympiques de Tokyo. 60 millions de touristes attendus cette année-là.
Enfin, une surprise, c'était hier au tribunal de Chicago.
Et qui fait partie des dizaines de citoyens tirés au sort pour être jurés? Vous l'avez
reconnaissable entre mille.
Barack Obama himself, convoqué comme juré, parce qu'il habite Chicago, en tout cas il est domicilié à Chicago. Il va dire bonjour et bravo à tous les autres tirés au sort. Bravo parce que c'est très facile aux États-Unis d'être exempté de ce jury duty, ce devoir de citoyen. Donc si l'ancien président prend la peine de se déplacer, bah, tout le monde doit le faire. On a profité pour dire le président du tribunal. Évidemment, Barack Obama, il n'a pas été retenu pour siéger. Imaginez un ancien président juré. D'abord, il monopoliserait l'attention. Ce serait absolument insupportable. Et puis, il aurait forcément un ascendant sur les autres jurés. C'est ce qu'a expliqué un grand avocat de Chicago. Imaginez si le président dit coupable, forcément les autres
vont commencer à le suivre. Vous croyez que ça se passe comme ça?
Barack Obama, il a à mon avis suffisamment
de
charisme, probablement pour influencer tout un jury.
Allez, merci beaucoup Florence Paracuelos. Il est 18h41 dans Un jour dans le monde.
France Inter. Le 18-20.
Et nous sommes au Chili ce soir, au Chili.
Me he quedado dormida. Lo siento, ¿quieres un café?
Voilà, est-ce que vous voulez un café, nous demande cette dame. Écoutez, pourquoi pas. Oui, nous sommes au Chili, où comme dans beaucoup de pays, et contrairement aux nôtres d'ailleurs, le débat a été lancé sur la culture de la marijuana à des fins thérapeutiques. Débat lancé, mieux que ça même, puisqu'il est possible désormais de commercialiser des produits pharmaceutiques à base de cannabis. Sauf que, bonsoir Justine Fontaine.
Bonsoir Fabienne.
Sauf que le texte de loi est bloqué depuis près d'un an au Parlement et un seul médicament a été commercialisé jusqu'à maintenant. Son prix est totalement exorbitants. On verra ça ensemble dans un instant, si bien que les familles de patients qui attendaient cela avec beaucoup d'impatience, eh bien, elles ont appris à faire pousser leur cannabis tout seul. Pas question d'attendre la modification de la loi.
Oui, et encore moins quand les personnes qui cultivent le font pour leurs enfants. C'est le cas de centaines de personnes à travers le Chili, des mères de famille surtout, qui cultivent du cannabis pour leurs fils ou leurs filles. Pour beaucoup, ils souffrent d'épilepsie ou de problèmes neurologiques graves.
Alors Justine, vous avez rencontré deux de ces mères de famille à Santiago. On écoute votre reportage et on se retrouve après.
Silencio.
Jacqueline Fuentes vit dans un quartier populaire avec ses deux fils. Lucas, le cadet, a 14 ans. Il vient de se lever et sa mère doit l'aider à s'asseoir sur une chaise roulante et à s'habiller.
Lucas ne parle pas du tout. Il a des convulsions depuis qu'il a 4 mois et il a une maladie qui engendre des tumeurs. Il avait 3 tumeurs. Maintenant, il n'en a plus que 2, mais l'une touche la zone du langage. Il émet des bruits, mais il ne parle pas.
À cause de sa maladie, Lucas faisait jusqu'à 100 crises d'épilepsie par jour. Les médecins ont essayé tous les traitements, sans succès. Il y a 2 ans, Lucas passe même 1 mois dans le coma après une crise grave. C'est là que sa mère entend parler du cas d'une petite fille épileptique traitée avec succès, avec du cannabis. Elle décide alors d'essayer pour son fils pendant 1 semaine.
C'est vrai que j'avais peur, parce que pour moi, le cannabis était une drogue. C'était ce que consommaient les drogués. Mais après cette semaine-là, j'ai vu des changements chez Lucas. Il a commencé à devenir plus calme, il n'avait plus de crise, il interagissait plus avec nous, il a commencé à faire des choses nouvelles, l'expression de son visage a changé. Donc, on a formé ce groupe où on cultive en commun et on se réunit 1 fois par mois pour préparer les médicaments pour tous les enfants du groupe.
Elle donne à Lucas le cannabis sous forme de gouttes, de la résine diluée dans un peu d'huile. Depuis, il ne fait plus qu'une crise par jour environ. Et même si Jacqueline sait que la police risque de l'arrêter, elle est déterminée.
J'ai dit non, je prends le risque. Son père me disait, mais tu pourrais te faire arrêter. J'ai répondu, ce risque en vaut la peine. Ça a amélioré sa qualité de vie et ça n'a pas de prix.
À l'autre bout de la ville, les médecins ne voyaient pas non plus de solution pour Cristobal, 6 ans aujourd'hui. Son père, neurologue, et sa famille habitent dans un grand immeuble d'un quartier résidentiel.
Bonjour mademoiselle, Justine est arrivée. Qu'elle monte.
Sur son balcon, Daniela Campos cultive du cannabis pour son fils.
Je vais t'apporter les plantes. Celle-là est toute petite. Elle sera prête en avril.
2 mois après la naissance de Cristobal, Daniela et son mari apprennent qu'il a une tumeur au cerveau. Il est traité par chimiothérapie mais garde des séquelles neurologiques très graves. Et il y a 2 ans et demi,
on s'est rendu compte que la tumeur était revenue, que cette fois-ci, elle était extrêmement grave. Et avec mon mari, on a décidé d'un commun accord de ne faire ni chimio, ni radiothérapie. S'il devait rester 1 an à vivre, on voulait qu'il soit bien et pas qu'il passe 1 année enfermé en clinique.
1 semaine plus tard, Daniela et son mari commencent à donner de la résine de cannabis à Cristobal, offerte et préparée par d'autres familles de malades.
Le cannabis l'a aidé pour tous ses problèmes neurologiques, les problèmes de communication qu'il avait. Maintenant, il communique un peu. C'est miraculeux. Cristobal est toujours avec nous aujourd'hui. Il va à l'école, alors qu'avec la tumeur qu'il a, il ne devrait même pas être encore en vie.
Daniela Campos n'a pas assez de place chez elle pour produire assez de cannabis pour traiter son fils. D'autres familles de patients lui en donnent donc, une pratique interdite aujourd'hui par la loi chilienne.
Alors Justine, on l'entend dans votre reportage, les patients, les familles de malades souhaitent voir la loi changer. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette loi exactement et quelles modifications demandent ces gens ?
Eh bien tout d'abord au Chili, consommer du cannabis n'est pas puni par la loi. Et paradoxalement, la culture n'est pas non plus formellement interdite tant qu'elle reste strictement individuelle et personnelle. Par contre, le trafic est lui clairement illégal. Cela englobe la vente, évidemment, mais aussi le fait de donner du cannabis à quelqu'un. Les patients demandent donc une loi qui autorise explicitement le fait de cultiver à des fins thérapeutiques, qui définissent les pathologies concernées ou encore les quantités maximales autorisées.
Rapidement, et on en parlait tout à l'heure, Justine, au début de votre reportage, les produits pharmaceutiques à base de cannabis donc sont autorisés à la vente, mais apparemment sont extrêmement chers. Pourquoi les patients donc ne peuvent-ils pas se tourner facilement vers cette solution ?
Eh bien Fabienne, parce que pour l'instant, un seul laboratoire canadien a obtenu l'autorisation de commercialiser son produit au Chili, et un flacon de ce médicament coûte près de 300 euros, l'équivalent d'1 mois de salaire minimum ici. Avec un laboratoire chilien, la fondation Daya a obtenu le droit d'exploiter la plus grande plantation de cannabis médicinal d'Amérique du Sud. Objectif, mener un essai clinique en vue de fabriquer un médicament pour lutter contre les douleurs liées au cancer. La fondation assure qu'il sera bien moins cher que son concurrent canadien, mais on ne sait pas quand il obtiendra l'autorisation de l'Agence chilienne de santé publique. L'essai est en tout cas pour l'instant toujours en cours.
Justine Fontaine à Santiago pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup.
France Inter.
Previously. Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Pès.
Précédemment.
Previously.
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 Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le résumé des épisodes précédents, c'est un coup de projecteur sur un personnage de l'actualité internationale perdu de vue que nous sortons de sa torpeur tous les jeudis. Enfin, pas tant torpeur que ça d'ailleurs, Olivier Pujol, avec notre disparu du jour, en tout cas pas disparu pour tout le monde. Il vient de boucler un voyage de prêche politique de plusieurs semaines à travers le Brésil. C'est officiel, vous nous dites que l'ancien président Lula est bien de retour.
Très honnêtement, Fabienne, est-ce que vous imaginez en France des dizaines de milliers de personnes réclamer le retour d'un homme politique ?
C'est rare, bah,
oui,
c'est
bon,
rare.
Eh bien, au Brésil, ça marche. Lula, 72 ans, après avoir vaincu un cancer, vécu le deuil de sa femme, Marisa, en début d'année, la rockstar de la politique brésilienne s'est replongée dans les bains de foule frénétiques qui ont fait son succès. Un marathon de 20 jours, 9 états, 58 villes au nord du pays. Un Brésil populaire, un Brésil pauvre. L'agitateur de foule est en terrain conquis. Lula est de retour et il n'est pas content.
Je veux qu'ils me disent ce qu'ils ont trouvé chez moi quand ils ont fouillé ma maison, qu'ils ont soulevé mon matelas, qu'ils ont forcé mon compte bancaire, épluché la liste de mes appels téléphoniques, quand ils sont entrés dans la maison de mes enfants. Qu'ils me disent s'ils ont trouvé la moindre pièce de monnaie volée. Je ne veux pas être innocenté, je veux qu'ils me présentent des excuses. Je veux qu'ils présentent leurs excuses au peuple brésilien.
Alors, qui il présente des excuses, Olivier ? Mais il parle de qui, Lula ?
Eh bien, de ceux qui, selon lui, tentent de l'abattre. Ceux qui ont destitué son héritière Dilma et sali son parti, le PT, le parti des travailleurs. On trouve donc dans le même panier ses adversaires politiques, la droite brésilienne, la justice brésilienne, qui l'a récemment condamné en première instance à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. Et il y a bien sûr l'actuel président, Michel Temer, que Lula accuse d'avoir précipité le pays dans le chaos.
Vous devez ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe au Brésil quand ils ont gelé les dépenses publiques de santé et d'éducation. En réalité, ils ont pratiqué un avortement dans le futur de ce pays. Ils vous ont retiré les opportunités que vous aviez quand le Parti des travailleurs était au gouvernement de 2003 à 2016.
Alors pour bien comprendre, Fabienne, ce revival Lula sur le terrain, il faut d'abord savoir qu'en octobre 2018, le Brésil élira un nouveau président, que le pays est à plat économiquement et que tous les barons, absolument toutes les grandes figures de la classe politique sont engluées dans les scandales de corruption.
Donc la solution, c'est Lula.
Possible, s'il arrive à casser sa condamnation, car sa popularité est intacte, il est en tête dans tous les sondages d'opinion, dans toutes les régions du Brésil, ce sera lui, Lula, victime de l'establishment, l'homme du peuple qui n'a jamais pu faire d'études, Lula et ses bonnes vieilles ficelles populistes.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à me détruire, pas parce que Lula est le meilleur, c'est parce que je vous ai, vous.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous qui dit Lula.
Et on remarquera qu'il parle de lui à la troisième personne.
Oui, mais on en connaît d'autres. Vous savez, Olivier Pujol, merci beaucoup. Allez, voici Etta James sur France Inter. Tell Mama.
Talk to me.
Tell Mama, nous dit Etta James. Dis-le à ta mère.
France Inter. Un jour dans le monde.
On est comme ça, nous on traduit les titres de chansons maintenant dans Un jour dans le monde. Allez, le rendez-vous de l'Europe du vrai du faux avec vous, Delphine Simon. Ce soir, du charbon, du nucléaire, on revient sur l'annonce de Nicolas Hulot.
Oui, le ministre de la Transition écologique l'affirme, on ne pourra pas fermer une partie des centrales nucléaires d'ici 2025 sans conserver du charbon, c'est trop tôt. Mais du coup, la pollution va grimper en flèche, un argument qui ressemble furieusement à ce qu'on entend à propos de l'Allemagne et de sa sortie du nucléaire. Et ça, ça fait fond... dire Fabienne, le directeur du WWF, Pascal Canfin.
J'ai été très surpris, vraiment très surpris, dans la bouche de Nicolas Hulot, d'entendre l'argument selon lequel il faudrait opposer le charbon et le nucléaire. J'ai pris ici, et je peux vous le montrer si vous le souhaitez, les statistiques officielles allemandes, qui l'Allemagne est en train de sortir du nucléaire. Et un des arguments qui est souvent avancé en France, c'est de dire, ah ben vous voyez bien, ils sortent du nucléaire, donc ils augmentent le charbon. C'est de la désinformation. C'est totalement faux. J'ai là sur mon smartphone le graphique officiel. La production de charbon.
Il raconte n'importe
en
quoi donc, Nicolas Hulot.
Diminue alors que le nucléaire diminue également.
Voilà, mais c'était chez Nicolas Demorand d'ailleurs. Delphine, on produit de moins en moins d'électricité au charbon en Allemagne. C'est ce que dit Pascal Canfin, c'est vrai ou c'est faux?
C'est plutôt vrai, contrairement à ce qu'on entend souvent. Depuis 1990, l'utilisation du charbon pour produire de l'énergie, elle baisse très régulièrement en Allemagne, du moins jusqu'en 2011, date de la décision d'Angela Merkel d'accélérer la sortie du nucléaire, vous savez, après Fukushima. À partir de cette date, 2011, la production d'électricité au charbon a rebondi et elle a même augmenté pendant 3 ans. Mais depuis 2014, Pascal Canfin a raison, l'utilisation du charbon décline de nouveau et assez nettement en Allemagne. On est même revenu aujourd'hui au niveau d'avant 2011. L'Allemagne n'a donc jamais aussi peu utilisé de charbon pour son électricité qu'aujourd'hui. C'est donc un vrai pour Pascal Canfin.
Donc le charbon serait la face sombre de la transition énergétique en Allemagne, c'est faux.
Oui, on l'entend très souvent cet argument. C'est très discutable aussi. D'abord, les renouvelables éoliens, solaires ont plus que compensé la fermeture des réacteurs outre-Rhin. D'autre part, les émissions de gaz à effet de serre baissent régulièrement depuis 15 ans chez nos voisins. 15 ans car la sortie du nucléaire, elle a été amorcée par les prédécesseurs d'Angela Merkel. Environ 27% de moins de gaz à effet de serre en moins depuis l'an 2000. Mais depuis 2 ans, elles augmentent à nouveau légèrement ces émissions selon les dernières données d'Eurostat.
Delphine, j'ai une autre question. Y a-t-il un lien entre cette augmentation de la pollution au CO2 et le charbon?
Selon le ministère de l'énergie allemand, pas vraiment. Le mauvais élève, c'est surtout le secteur des transports. L'autre raison, c'est un climat plus froid ces années-là. Alors c'est vrai que l'Allemagne l'utilise encore énormément, ce charbon. Environ 40% de son électricité en dépend. Ça représente une centaine de centrales encore à travers tout le pays.
Et du coup, la sortie du charbon, elle avance chez nos voisins ou quoi?
Oui, quand même. Même si la transition énergétique a sans doute ralenti le mouvement, la sortie du charbon est même devenue un enjeu central pour le futur gouvernement allemand. Les Verts réclament la fin du charbon en 2030 et ils en font une condition de leur participation à la coalition qui se négocie en ce moment même.
Delphine Simon, merci beaucoup. Corinne Laine nous attend à San Francisco. Pour l'édito du journal Le Monde, bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne.
Corinne, choquée par l'élection de Donald Trump, on est en train de boucler la boucle avec vous. La Californie s'était engagée à entrer en résistance, c'était donc en novembre dernier. Un an après, vous allez nous dire où on en est. Est-ce que l'État le plus peuplé, le plus riche du pays a réussi à faire échec au président ?
Alors, comme vous l'imaginez, c'est un anniversaire qu'on n'a pas fêté en Californie. Hillary Clinton avait gagné l'an dernier avec 4 millions de voix d'avance dans l'État, soit 62% des suffrages, le meilleur score d'un candidat démocrate en 80 ans. Depuis que le républicain est entré en fonction, c'est la guerre. À l'America First de Trump, le gouverneur Jerry Brown a répondu « Californie first ». Pas question de s'en prendre au mode de vie des Californiens. Et celui-ci passe par la défense de l'environnement, l'ouverture des frontières, la mondialisation, l'opposé du nationalisme défendu par Donald Trump. Jerry Brown a donné 6 millions de dollars à son attorney général, le ministre de la Justice, pour financer la résistance sur le plan judiciaire. L'État a embauché 20 avocats spécialisés dans les questions d'environnement, de santé, d'immigration et de protection des consommateurs. Le gouverneur compte sur la justice pour empêcher la mise en œuvre du programme de l'administration, sachant qu'aux États-Unis, un juge fédéral peut, à lui tout seul, bloquer une mesure qu'il juge non conforme à la Constitution. Dans le reste du pays, les politologues suivent la bataille de Californie. C'est un test pour les institutions, les fameux check and balance, les freins et contre-pouvoirs de la démocratie américaine.
Alors le bilan, Corinne, un an après ?
Il est loin d'être négligeable. La guérilla judiciaire, ça coûte cher, mais ça ralentit les ardeurs de l'administration Trump. Voir par exemple le travel ban qui frappe les voyageurs originaires de 7 pays musulmans. Il a été bloqué une première fois par un juge de San Francisco, puis deux fois par un juge de Hawaï. Depuis janvier, l'attorney général Xavier Becerra a déposé plusieurs dizaines de plaintes contre la construction du mur à la frontière mexicaine, contre la décision du gouvernement de ne plus imposer aux assurances santé de rembourser la contraception. Il n'y a pas de petit combat. La Californie a même poursuivi le ministre qui voulait retarder la mise en place des standards d'économie d'énergie pour les climatiseurs. C'était décidé par Barack Obama. Le ministre a dû battre en retraite et promettre d'appliquer les normes. La Californie a aussi obtenu gain de cause dans son bras de fer avec le ministre de la Justice sur les villes sanctuaires, ces localités qui protègent les sans-papiers. Le gouvernement a menacé de leur couper les vivres si elles ne coopèrent pas dans la traque aux clandestins. La justice a dit non, pas question de se servir des subventions fédérales de manière indiscriminée.
Et Corinne, rapidement, quelques échecs quand même, j'imagine ?
Oui, sur le plan législatif, ce qui montre que la résistance a ses limites quand elle est confrontée aux réalités politiques. Les démocrates, qui sont majoritaires à l'Assemblée locale, ont introduit 35 projets de loi anti-Trump, 4 seulement ont été adoptés. Ils n'ont pas eu de mal à essayer de sauvegarder les statistiques sur le climat avant qu'elles disparaissent des publications officielles. Mais quand il s'est agi d'interdire les forages offshore que le président a décidé de relancer, les écologistes se sont heurtés, tout comme à Washington, aux intérêts de l'industrie pétrolière. Et même dans un État aussi progressiste, le Congrès n'a pas réussi à adopter une assurance santé publique universelle pour remplacer l'Obamacare menacé par les Républicains. Ce qui montre à quel point la gauche reste divisée aux États-Unis, sauf bien sûr dans son opposition à Trump.
Merci beaucoup Corinne Lenne pour Un jour dans le monde en direct de San Francisco. La suite du 18-20, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne, il est 19h.